Aujourd'hui, je voudrais vous parler du service. Nous avons vu la liberté, nous avons vu, pardon, ce qu'était le respect. Maintenant, nous allons parler du service. Servir, c'est un mot qui naguère était auréolé d'une indubitable noblesse. On parlait du service de la patrie, on honorait les grands serviteurs d'une ville, d'une cause, d'une nation. Citons comme exemple la belle devise du génie, souvent construire, parfois détruire, toujours servir. Malheureusement, il semble que cette notion se perde actuellement dans le brouillard. Lorsque le fait de servir ne se limite pas à être utile à quelque chose, c'est tout qui me sert à quelque chose, on l'emploie souvent en se plaçant, pourrait-on dire, de l'autre côté de la barricade. On tient à être servi. On prêche le droit d'être servi, tout en laissant au serviteur le droit de ne plus servir s'il s'estime lésé. On ne dira jamais assez la nocivité de cette notion de droit, mise sans cesse en avant, un état de droit, sans aucune mention des devoirs correspondants. Puis-je me répéter? Si j'ai le droit d'aller à Bali ou aux Seychelles, ou simplement à Paris-Plage, c'est que d'autres ont le devoir de m'y emmener ou de me donner les moyens nécessaires. L'homme est un animal social, a dit Aristote, et une société ne peut fonctionner que si chacun à son poste est au service des autres, même lorsque ces services semblent inégalement répartis. Prenons l'exemple de la société féodale. En bas de l'échelle se trouvaient les serfs. Ils n'étaient déjà plus des esclaves. Ils pouvaient se marier, posséder quelques biens. Le maître n'avait pas sur eux un droit de vie et de mort, et ils ne pouvaient être vendus. Ils étaient attachés à la glèbe, ils étaient vendus avec le terrain, un peu d'ailleurs comme les ingénieurs et les ouvriers sont vendus en même temps que la filiale qu'ils servent. Quelqu'un m'avait dit un jour, j'étais vendu trois fois parce que sa filiale avait changé, sa société avait changé trois fois de maître. Il y a d'ailleurs chez les serfs plusieurs cas de réussite sociale remarquables, dont Gerbert d'Aurillac, le pape Sylvestre II et le ministre Suger, qui étaient à ce que j'ai lu des fils de serfs. Certes, les serfs étaient assujettis à de nombreuses corvées, à de nombreux impôts, mais leur maître avait le devoir de les protéger contre les truands, les ennemis venus de l'extérieur. Ce service était si exigeant que certains de ses maîtres se sont vus conduits à demander leur protection à des seigneurs plus puissants dont ils devenaient les vassaux. Ils étaient serviteurs, mais leur patron avait aussi des devoirs envers eux. Un tel échange de services est normalement le ciment de toute entreprise, où chaque étage est au service des autres et tous au service de la dite entreprise. S'il est évident que le manœuvre est au service de l'ouvrier, l'ouvrier du chef d'équipe, puis du chef de chantier, ils ont besoin de l'aide du bureau d'études, des ingénieurs, des services commerciaux, des financiers et du directeur, qui trône en restant au service de la cause commune, comme le chef d'orchestre qui organise les efforts de ses musiciens. Michelin, le fondateur de la firme bien connue, disait que son devoir était de produire le meilleur pneu au meilleur prix. Il ne parlait pas de sa cote en bourse. Telle est la cause commune, rendre service aux automobilistes en leur fournissant dans les meilleures conditions le meilleur accessoire possible. Il est évident que ces services ne sont pas rendus dans les mêmes conditions. Dans son ouvrage sur l'entreprise, Barenton Conviseur, Auguste de Teuf, écrivait que l'ouvrier pense à son travail, le contremaître au travail du lendemain, le chef d'atelier à celui du mois suivant, le chef de service à l'année qui vient, le directeur à ce que l'on fera dans 5 ans. Ce qui, soit dit en passant, prouve que les responsabilités sont différentes. La faute d'un directeur peut aboutir au capotage de l'entreprise, ce qui est beaucoup plus grave que la non-réussite d'une pièce. Chacun met chacun à sa place, fait confiance aux autres dans leur domaine. C'est ainsi que marche une entreprise normalement. La question de salaire est sérieuse, mais elle n'est pas la seule à considérer. Certes, l'ouvrier mérite son salaire, et le salaire doit être juste. Cela demanderait de longs développements, car quand il n'y a pas de juste prix, il n'y a pas de juste salaire. On s'en aperçoit un petit peu maintenant. Mais le salaire doit être juste, mais cela n'enterre en rien la qualité et la nécessité du service. L'homme doit avoir non seulement un salaire, mais aussi un idéal. Il ne faut pas oublier que le salaire, faut pas oublier le salaire sous prétexte qu'on fournit un idéal. Il va sans dire que le service doit être honnête, c'est-à-dire sincère et sans arrière-pensée. Le sabotage, le non-respect du secret professionnel sont d'authentiques félonies, des trahisons graves. Dans le domaine qui leur est légitime, l'obéissance doit être une règle absolue. Si tout pouvoir vient d'en haut, refuser l'ordre d'un supérieur ou le contourner est analogue au refus d'un ordre divin. Sauf, naturellement, s'il s'agit d'obéir à un commandement d'ordre supérieur, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. On tombe alors dans le cas de l'objection de conscience. Ce fut l'origine de nombreux martyrs, mais ce n'est quand même pas un cas fréquent. Si le directeur me dit « Vous devez rogner sur vos vacances pour aller faire telle mission », je dois lui obéir. S'il me dit « Vous devez acquérir les grâces de telle personne parce que ça vous servira », je ne dois pas lui obéir. C'est comme ça. Comment rendre un service bénévole ? En dehors du service rémunéré, il y a les nombreux services rendus dans le cadre de la famille, de l'amitié ou du bénévolat. C'est un domaine parfois délicat, comme le montre l'histoire racontée dans ma jeunesse de trois jeunes scouts qui avaient joint leurs efforts pour la BA quotidienne. Il a fallu qu'ils soient trois pour faire traverser la rue à une vieille dame, parce que la dite dame n'en avait aucune envie. C'est caricatural. Mais je pourrais citer plusieurs caricatures analogues, je citerai des cas vécus. La vaisselle express, à la fin d'un déjeuner familial, une jeune femme de bonne volonté s'est levée en disant « Je me charge de la vaisselle, on va vous aider. » « Non, c'est pas la peine. » 5 minutes plus tard, elle était de retour, nous étions une bonne dizaine à table, on l'a félicitée, mais après le café, il y eut une amère constatation. Les assiettes, les verres et les couverts étaient à peine rincés, ils étaient posés dans les gouttoirs n'importe comment, pendant que les casseroles et les plats étaient pleins d'eau sale et s'entassés dans l'évier. Elle a dit « Moi, je laisse sécher, je laisse tremper. » Et finalement, c'est ce qu'a dit la bénévole, deux robustes acolytes ont pris le relais, il leur a fallu une bonne demi-heure pour achever le travail. Ensuite, vous avez le pseudo-expert qui voit quelque imperfection dans un de vos appareils. Il s'en empare, le bricole et vous le rend inutilisable car je ne connais pas ce modèle. Ou il fait n'importe quoi, il ne vous reste plus qu'à en acheter un autre. Personnellement, je sais que mon pauvre ordinateur a été pris en main par un tas de gens fort expérimentés, mais qui me l'ont rendu bien difficile à utiliser. Troisième exemple, j'ai rangé votre fourbi. Effectivement, le tiroir, voire le meuble, est parfaitement net, débarrassé de tout corps étranger, entre autres des fleurs que vous aviez mises à sécher pour votre herbier, des précieux cailloux ramassés sur la plage, de quelques fossiles, des vieux articles de journaux que vous gardiez précieusement, de vos photos de fiancés, etc. Ces genres de remise en ordre sont particulièrement nocives. On peut relire avec profit un livre des années 1900, « Les malices de Plick-et-Ploc », qui narre les exploits désastreux de deux gnomes accumulant les sottises avec les meilleures intentions du monde, tant qu'ils n'ont pas trouvé le mot magique « réfléchir avant d'agir ». Pour rendre un service authentique, il faut de la compétence, et tout le monde n'est pas égal dans ce domaine. Mozart aurait probablement été un plombier fort médiocre, mais il faut aussi de la modestie. C'est celui à qui on rend service qui a raison. Il faut veiller à ne pas se prendre pour un éducateur et à choisir à sa place. La nature spirituelle du service. En allant au fond des choses, on remarque que les déviations de la notion de service ont toute leur origine dans la vanité et l'orgueil. On veut mettre au grand jour la supériorité que l'on est convaincu d'avoir. Ce n'est certainement pas dans cet esprit que le Christ disait « Que le plus grand soit chez vous celui qui sert ». Le service doit être rendu avec respect par celui qui en est bénéficiaire. Le service doit être rendu avec un grand respect pour celui qui en est bénéficiaire. Et surtout, ne pas oublier le côté spirituel du service. L'homme est une âme sensible créée par un Dieu qui est amour, comme l'a rappelé dernièrement le Saint-Père. Un service rendu sans amour n'est qu'une prestation, qu'elle provienne ou non d'un organisme officiel. Des congrégations comme les Sœurs de Saint-Vincent de Paul ou les Petites Sœurs des Pauvres le savent parfaitement. De petites attentions sont toujours les bienvenues. Avons-nous donné les fleurs avant le pain, disait quelqu'un, membre d'une société de bienfaisance. Enfin, le service doit être rendu dans l'obéissance aux intérêts supérieurs de la personne servie. On peut le forcer à absorber un médicament, mais pas à placer son oreiller comme on estime qu'elle devrait le faire. J'ai entendu dernièrement sur les antennes cette remarque judicieuse. L'homme est le seul animal qui ait besoin d'être consolé. Et les plus riches sur le plan matériel sont parfois les plus miséreux sur le plan affectif. Je me rappelle le témoignage d'un prêtre embarqué sur un luxueux bateau de croisière. Il jouait un rôle d'aumônier et m'a dit « J'ai rarement eu l'occasion d'exercer un ministère aussi fructueux. Les misères des classes dites opulentes sont moins visibles, mais souvent bien plus profondes. Service, obéissance et amour sont liés. La devise de Satan le dit clairement. Non serviable, je ne servirai pas. Celui qui ne veut pas servir a la devise de Satan, qui joint l'orgueil, le mépris, la cruauté et le mensonge. Pour plus de détails, lire les médias en tout genre. La prière de Saint Ignace, d'être généreux et de donner sans compter, élève certainement plus haut que l'ordre d'aller abreuver les sillons de sang des féroces soldats mugissants. Je suis la servante du Seigneur, dit la Sainte Vierge, qui restera toujours notre modèle. La prochaine fois, nous parlerons de la fidélité.